100% jeunes. Ils sont jeunes et incarnent l'avenir. Leur quotidien, préoccupation, ambition, c'est dans 100% jeunes. L'orientation scolaire et académique, l'entrepreneuriat et l'emploi, une émission des jeunes, pour les jeunes et avec le jeune. Tous les vendredis à 6h30, 13h30 et 20h30, le lundi à 9h15.
Bienvenue à tous dans cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. Nous parlons aujourd'hui de l'autonomisation de la femme congolaise. Comment promouvoir l'autonomisation de la femme congolaise? Notre invitée, bien, il s'agit de Madame Pascaline Zamunda. Elle est d'abord consultante en genre et puis coordonnatrice du cadre des récupérations et d'encadrement pour l'épanouissement intégral des jeunes, CREIJE en sigle. Madame Pascaline Zamunda, encore une fois, bonjour.
Bonjour, Monsieur Jourdi.
Et bienvenue dans cette émission au Capi Service.
Merci.
Aujourd'hui, avec vous, on va parler de l'autonomisation de la femme. D'abord, c'est quoi l'autonomisation?
Voilà, c'est un processus qui consiste à donner un certain pouvoir, des capacités à la femme ou à une personne pour qu'elle soit à mesure de jouir de ses droits.
Un exemple?
Oui. Par exemple, quand une personne étudie, a accès à la formation, l'accès à la formation lui permet d'avoir des informations qu'il peut utiliser pour lui permettre de jouir de ses droits. C'est comme aussi l'accès aux ressources. Quand quelqu'un a accès aux ressources, ça lui permet de satisfaire ses besoins, ça lui permet de jouir de ses droits, de s'épanouir, etc. Donc, c'est tout un processus. Et il n'y a pas que l'autonomisation financière, comme souvent on a l'habitude de le dire, à croire que l'autonomisation, ça a juste un trait avec
les finances.
Ouais.
Donc ça touche plusieurs domaines.
Ça touche plusieurs domaines en commençant d'abord par l'être, la personne elle-même. Parce que quand la personne a les capacités, elle sait comment les utiliser. Donc il faut d'abord que c'est pas le matériel, c'est d'abord la personne elle-même.
L'éducation.
Bien sûr, ça doit commencer par là. Oui.
Ça commence par l'éducation et après. Mais nous savons qu'aujourd'hui, de nombreuses femmes congolaises éprouvent des difficultés pour subvenir, par exemple, à leurs besoins sociaux de base. Conséquence, certaines d'entre elles se livrent à la débauche, d'autres vivent aux dépens des personnes de bonne volonté. Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces femmes deviennent autonomes?
Tout à fait. En parlant de l'autonomisation dans notre contexte, je crois qu'il faut parler dans le long terme, dans le moyen, dans le court terme. Dans le long terme, c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure, il faut faciliter l'accès à l'éducation formelle à toutes les femmes. C'est ce qu'on voit déjà et c'est ce qu'on encourage. Il faut que les femmes puissent avoir l'accès à l'éducation, au programme d'éducation formelle. Donc, qu'elles étudient maternelle, primaire, secondaire, université, et qu'elles aient les expertises nécessaires. À ce moment-là, on sait bien sûr que la femme a les capacités intellectuelles, a les capacités morales
de
se prendre en charge d'elle-même. Mais à moyen terme, nous voyons bien sûr, parce que les contextes actuels montrent que beaucoup de femmes, compte tenu du contexte socio-économique ou culturel de notre pays, elles n'ont pas eu suffisamment de chances pour pouvoir suivre le cursus normal, celui que nous recommandons. Alors, il faut des
D'ailleurs,
programmes.
Dans notre pays, la plupart des taux d'analphabétisme est plus développé chez les femmes.
Bien sûr.
Que chez les hommes.
Oui, on parle de plus de 50%, ce qui est dommage.
Et des femmes qui n'ont pas étudié.
Oui, ces programmes permanents, c'est important d'avoir ces programmes qui accompagnent maintenant de façon spécifique ces femmes, parce qu'à l'état où elles sont, peut-être la plupart n'ont plus la capacité ou la possibilité de retourner à l'école parce qu'elles ont déjà d'autres obligations, notamment en famille. Donc
des
ces programmes-là
voilà.
qui leur permettent non seulement d'avoir des ressources, mais des ressources pas seulement matérielles, mais aussi psychologiques, morales, pour qu'elles se définissent d'abord comme des êtres capables. Parce qu'il faut qu'elles se conçoivent comme des êtres autonomes à pouvoir se venir à leurs besoins et ceux de leur entourage, bien sûr. Mais aussi, à court terme, nous encourageons tous les programmes qui se font dans la communauté, qui consistent d'abord à éveiller la conscience des femmes à travers les sensibilisations, mais aussi avec des petites activités génératrices des revenus, ce qui n'est pas mal, même si ce n'est pas des modèles permanents qu'il faut baser toute la stratégie là-bas. Mais ça fait quand même quelque chose. On ne peut pas dire que c'est pas moins que rien. Quoi.
Alors, vous travaillez avec les femmes au sein du CREIJE. Dites-nous, qu'est-ce que vous faites en leur faveur? oui, pour oui. les aider à devenir autonomes.
Bien sûr, nous travaillons essentiellement sur des programmes de renforcement de capacité. Donc, nous procédons d'abord par l'identification des besoins ressentis en milieu des jeunes, mais aussi des jeunes femmes. Et la plupart, ce sont ces jeunes femmes-là à qui nous pensons accorder une seconde chance, donc ils n'ont pas eu la possibilité de suivre les parcours normaux, donc
les études
formelles.
Pourquoi?
Alors, bon, parce qu'il y a la pauvreté dans la famille, parce que aussi à un moment donné, peut-être les parents ont fait le choix d'envoyer les garçons
plutôt
à l'école
que la fille,
plutôt que la fille, ou soit la fille est tombée enceinte et il s'est buté à la...
Elle a dû arrêter les études.
Ouais. Ou c'est l'école qui n'a pas accepté qu'elle réintègre encore l'école. Donc pour ça, c'est les petits programmes que nous faisons dans les limites de nos moyens, bien sûr, mm-hmm. pour pouvoir leur permettre de répartir sur ça. Voilà, c'est ce qu'on fait. Mais aussi, on accompagne des jeunes universitaires.
Vous les apprenez les métiers, par exemple, coupe et couture.
Tout à fait. On commence d'abord par des formations théoriques, par exemple, sur le droit. Pour qu'ils connaissent leurs droits, pour qu'ils connaissent qu'ils ont des rôles, des responsabilités dans la communauté. Et puis, on donne des petits moyens pour leur permettre de répartir et de répondre à leurs besoins. Et pour les jeunes universitaires, parce qu'il y en a aussi, mais qui n'ont pas accès à l'emploi, ce sont des jeunes entrepreneurs. Mmh. Nous les accompagnons en leur donnant de formation en entrepreneuriat, surtout sur le volet formation, parce qu'en entrepreneuriat, il n'y a pas que les ressources matérielles ou financières qui comptent. Donc, on leur donne notre accompagnement en ce sens-là. Donc, pour nous aussi, c'est un processus d'autonomisation.
Et par exemple, les filles qui bénéficient ou les dames qui bénéficient de microcrédits, on peut le dire ainsi, vous leur donnez des microcrédits, est-ce qu'elles ont aussi la capacité de bien gérer cela et de fructifier, n'est-ce pas, leurs activités génératrices de revenus?
C'est pour cela que j'ai évoqué le volet théorique. Donc il faudra, parce que si la femme, quand elle se trouve dans... Quand elle a un problème d'autonomisation, si je peux le dire, c'est assez complexe. Ce n'est pas qu'il manque de moyens pour vivre. Souvent, il y a tout l'environnement socio-culturel, les problèmes d'information, d'ignorance, les manques de capacités, des compétences. Et donc, il faut d'abord permettre à la personne d'éveiller sa conscience, qu'elle se reconsidère encore comme un être humain qui a bien sûr des besoins. Et quand elle le sait déjà, elle peut elle-même soit trouver des solutions à ses problèmes. Et vous êtes là que pour l'accompagner. Et après, les microcrédits, tout ce qui va venir, ça va venir que compléter, l'aider maintenant à rebondir.
Alors, si je comprends bien, pour qu'une femme devienne autonome, elle doit beaucoup plus avoir accès à l'emploi.
Bon, oui, c'est un des aspects, hein, parce que quand une femme a étudié normalement, à la fin, il doit nécessairement trouver des moyens pour répondre à ses besoins et l'emploi, c'est important, ou les activités telles qu'on les dit. Mais ce n'est pas tout, parce que l'environnement compte aussi. Parce qu'aujourd'hui, on se pose même la question de savoir, il y a des femmes qui travaillent, mais est-ce qu'elles jouissent nécessairement des revenus de leur travail? Quel pouvoir elles ont à décider sur les revenus?
Il y a généralement, comment ça se passe? Elles viennent remettre à leur mari ou bien comment ça se passe dans les foyers?
Bon, parfois, celles qui sont mariées, ça se passe comme ça, et d'autres qui ne sont pas même mariés, souvent ils travaillent pour leur famille. Donc elle a été éduquée plus à aider la famille
et tout ce qu'elle reçoit, c'est pour la famille.
Oui. Et elle le font volontairement, mais à un moment donné, elles ne savent pas vraiment jouir du fruit de leur travail. Ce qui n'est pas mal socialement, on le comprend, mais quand on parle de l'autonomisation, la femme ou la personne qui est autonome doit pouvoir vivre de ses revenus, de ses ressources.
Voilà, elle doit vivre de ses ressources. Des questions et préoccupations par rapport à cette thématique, appelez-nous au 099-706-6394. Alors, si une femme est dépendante et n'est pas autonome, qu'est-ce que cela entraîne comme conséquence, Madame Pascaline?
Oui, ça a beaucoup de conséquences néfastes, évidemment, parce que c'est toute la communauté qui est touchée. Aujourd'hui, on peut être jeune fille, peut-être ça va pas se sentir, mais quand une mère n'est pas autonome, et ici l'autonomisation, encore une fois, ce n'est pas seulement financière, quelle éducation elle va transmettre aussi à ses enfants, à son entourage, la perception même qu'elle aura d'elle-même ou que la communauté aura d'elle-même, elle sera un peu biaisée et ne va pas servir à grand-chose pour sa communauté. Donc, une femme... Et bien sûr, la dépendance elle peut être aussi discutable, parce que quand elle vit dans une communauté, elle est en dépendance, elle est en interaction avec les gens qui sont autour d'elle, mais c'est à elle de définir les rapports qui doit les lier avec les autres individus de sa communauté.
Des questions et préoccupations, composées les 099 706 63 94. Nous avons en ligne Clément Daé de Kananga. Bonjour.
Clément Daé. Bonjour, Jodie, Daniel Nkashamba. Bonjour aussi à l'invité de la Radio Capi.
Bonjour.
Quelle est votre préoccupation?
Il est vrai que la question qui est en train d'être débattue, c'est une question qui nous intéresse davantage. Alors, je profite de l'occasion pour demander à la dame l'invité quels sont certains conseils qu'elle peut donner à certaines dames étant responsables, cherchent à avoir certains principes soi-disant, normalement buvons et puis mangeons ce que nous avions, on ne sait pas si demain on va mourir. Autrement dit, les femmes qui n'ont pas l'occasion, soit le sens d'autonomisation, quels sont certains conseils qu'elle peut vraiment leur donner? Alors, la deuxième des questions, je l'ai entendu parler de certains principes qu'on peut normalement appliquer en ce qui concerne l'autonomisation, les longs termes ainsi que les courts termes ainsi que les moyens termes. Alors, il y a certaines femmes qui n'arrivent pas à assumer les responsabilités, autrement dit, qui n'arrivent pas à faire voir que non, vraiment, ce sont les femmes intellectuelles qui ont évolué et qui étaient sur le banc de l'école. Dans beaucoup de cas, autrement dit, dans le bureau, partout où elles doivent être, ce qu'elles font, c'est tout autre. On dit non, voilà, tu es responsable, voilà ce que tu dois faire. Elles pensent que non, ce que vous êtes en train de la parler là, c'est une façon vraiment de la faire pression. Autrement dit, c'est une dictature que vous êtes en train de la faire. Du fait que ce que vous êtes en train de faire, c'est pour son profit, à ce qu'elle nous donne un bon travail, qu'elle nous rende vraiment un bon service. Mais ce que vous faites là, elles pensent que non, c'est la dictature ou des fois c'est la pression. Elles se sentent vraiment mal à l'aise. Elles partent se plaindre à ses amis. Non, voilà ce que mon chef est en train de faire, que ce soit mon mari au bureau, je me vois mal à l'aise, qu'est-ce que je peux faire? Elles peuvent même aller chercher le fétiche afin de maîtriser celui-ci pour que celui-ci ne puisse pas avoir vraiment un œil ouvert afin de l'aider à ce que nous rendre des bons services. Quelles sont les méthodes ainsi que les techniques que nous pouvons soumettre à des femmes pareilles en ce que cette dernière se sente vraiment responsable, que nous donne vraiment ou nous rende un bon service? Voilà ce que je voulais vous demander, puis j'aimerais vous souhaiter bon début de la semaine chez vous, Jodie Daniel Nkashamba.
Merci Clément, Daé de Kananga. Malonga, vous êtes en ligne depuis Bandunduville. Bonjour.
Notre invité.
Bien, Malonga, nous parlons de l'autonomisation de la femme congolaise. Qu'est-ce que vous avez à nous dire à ce sujet?
Ok, ça va. Bon, à ce sujet, seulement moi, je vois toujours des complications dans d'autres familles. Pour moi, je suis d'abord bien, je laisse à ma femme un peu libre dans ses activités. Elle se domine et elle fait ce qu'elle veut. Ce que je veux demander là-bas, est-ce que dans le foyer ou bien dans le couple, on peut attribuer un fonds que la femme évolue dans sa propre manière de faire et moi, l'homme, j'évolue à moi pour qu'elle s'autonomise vraiment et qu'elle se domine à ses besoins. Est-ce que ça peut nous rendre un bon succès là avant, puisque on voit que la femme ici, elle est d'abord, elle évolue dans la libertinage. Vous voyez que elle va constituer un cible d'autres maris. Et elle peut être
qu'est-ce que vous appelez libertinage? Malonga, qu'est-ce que vous entendez par libertinage?
Bon, libertinage, c'est qu'elle, par exemple, à ce point que nous parlons, si la femme se voit que elle est mariée, mais son mari, il fait semblant de se soucier d'elle, elle s'évolue, elle veut partir à ses missions, elle va. Elle rentre à Caen et son mari est d'accord de tout ce qu'elle fait. Là, elle se voit que vraiment, elle vit dans la libertinage. Elle n'a rien à craindre encore à son mari. C'est ce que moi j'ai demandé, si ma femme se trouve à ce niveau-là, elle s'évolue dans cette manière, est-ce que ça peut nous causer quelque chose de vraiment grave un peu plus loin là?
D'accord.
C'est ça l'autonomisation. Elle se domine elle-même, elle fait ce qu'elle veut, mais sous ma crainte aussi. Mais là, avant, là, profond, est-ce que ça ne peut pas causer quelque chose de louche?
D'accord, merci Malonga. Notre invité va répondre tout à l'heure. Evelyne, vous êtes en ligne depuis Kananga. Nous parlons de l'autonomisation de la femme congolaise. Qu'est-ce que vous avez à nous dire à ces sujets?
Oui, Daniel, je vous dis merci pour m'avoir accordé la parole. Parler de l'autonomisation de la femme, c'est faire recours à l'éducation que la petite fille doit recevoir au sein de la famille. Nous avons des enfants, nous devons leur inculquer la culture telle qu'ils sont égaux, et le garçon et la fille, ils doivent savoir que la vie de la communauté leur appartient. Alors, elle doit être éduquée de la même manière que les garçons. Elle doit étudier dans des meilleures écoles. Elle doit avoir des bons conseils. On doit lui faire voir qu'elle va gérer cette communauté, qu'elle va gérer ce pays. Elle sera responsable. C'est un problème de renforcement des capacités. Oui. L'État doit prendre en charge cette rubrique-là. À telle enseigne que le législateur, qui est le Parlement, puisse éditer des lois qui puissent renforcer cela. Parce que il y a déjà la proposition telle qu'il y ait 30% et ceci, cela. Mais non, on doit avoir des lois qui soient très précises pour renforcer les capacités des femmes et les aider aussi à participer massivement. Il y a un problème de compétition. La femme doit comprendre qu'elle doit être compétitive. On ne doit pas vraiment la favoriser parce qu'elle est femme. Non. Elle doit prouver qu'elle est compétitive. Elle est capable de fournir le meilleur d'elle-même. Elle peut avoir l'argent, mais elle a besoin des conseils. Si elle reçoit les conseils, elle va aller de l'avant sans problème. La petite fille doit étudier, lui dire que demain tu vas gérer ce pays. Alors, il faut s'atteler aux études. Ça doit commencer en famille, Monsieur Daniel.
D'accord.
Et l'État doit s'impliquer parce que c'est l'État qui est le régulateur de la société. Et aussi, il faut intensifier les campagnes de sensibilisation, surtout dans le monde rural. En ville, ça va encore, il y a déjà un pas qui est fait, mais pour le monde paysan, il y a encore des difficultés énormes. La femme va faire son champ, elle va s'aimer, elle va récolter, mais c'est l'homme qui va gérer maintenant le résultat de son travail.
D'accord. Merci Evelyne depuis Kananga pour cette intervention. Madame Pascaline, vous avez suivi ces différents points de vue des auditeurs et les questions et préoccupations. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
Oui, je commence d'abord par remercier Madame Evelyne. Elle a dit des choses profondes et c'est ça en fait l'autonomisation. Mmh. C'est tout un processus comme on l'a dit tantôt. Il fallait agir à long terme, à moyen terme et à court terme. Et il a insisté sur l'implication de l'État. Et normalement, c'est lui le garant. C'est lui qui doit assurer. Le jour où l'État se décidera qu'il faut vraiment un regard particulier sur les questions des femmes en passant par l'autonomisation, vous allez voir qu'après 10 ans, il y aura quand même des changements.
Malonga nous dit que d'après lui, l'autonomisation, c'est que la femme fait ce qu'elle veut, elle
non,
est libre, elle
tout.
Sort quand elle veut.
Oui,
et
oui,
puis,
oui.
Lui,
il je voudrais en venir, et l'autonomisation ne s'applique pas seulement au couple. Parce qu'il y a dans le couple, là, ça devient même une autre question, c'est une question de gestion. Je ne voudrais pas revenir sur la question de savoir comment est-ce qu'un homme et une femme doivent se gérer. Mais une femme autonome, c'est une femme qui sait savoir ce qu'elle doit faire, comment et quand. Et avec qui? Moi, je ne pense pas qu'une femme, quand elle connaît ce droit, il faut qu'elle en abuse. Non. Le problème maintenant, c'est l'attitude de l'homme. Si l'homme commence à croire que la femme, en laissant la femme connaître ce droit et des jours de ses droits, elle va devenir dangereuse, et c'est là que ça va poser de problème. Mais si on se considérait comme des êtres humains à part entière et avec respect et traiter les choses dans la communauté, dans la mutualité, moi, je ne vois pas où est-ce que ça peut poser de problème. Mais il y a des dérapages. Et ça, ce sont des cas isolés. Mais quand on parle de l'autonomisation, on va pas se focaliser sur ces cas de dérapage qui ont peut-être aussi d'autres explications à côté.
Ouais. Parce qu'il y a certaines hommes qui n'aiment pas que leurs femmes travaillent alors qu'elles en ont les capacités. Elles ont étudié, mais peut-être parce qu'ils sont un peu trop jaloux, ils veulent pas que leurs femmes travaillent.
C'est le problème socioculturel dont on a évoqué à part. L'homme se veut être détenteur du pouvoir dans la communauté et souvent la femme est la personne sur qui l'homme veut vraiment manifester son pouvoir. Malheureusement, ce n'est pas ça. En tant qu'être humain, et l'évolution elle-même le veut ainsi, les gens doivent connaître leurs droits et jouir de leurs droits. Et donc, ce n'est pas en privant à la femme de jouir de ses droits que ça devient une garantie pour l'homme. Au contraire, ça devient un objet des problèmes parce que tôt ou tard, la femme apprendra seulement quelque part qu'elle a le droit et elle voudra toujours l'exercer. Et surtout quand elle a déjà des frustrations comme que non, cet homme ici m'a empêché pendant longtemps de jouir de mes droits et c'est là même que le problème commence.
Et d'ailleurs, aujourd'hui, l'autorisation maritale a été supprimée.
Tout à fait.
Une femme peut travailler
quelque chose
sans...
Que nous encourageons, bien sûr, pour l'autonomisation de la femme. De la parce femme, que ça a posé beaucoup de problèmes, justement, dans le ménage.
Bien, une autre, Madame Evelyne a insisté, il faut renforcer les capacités de la femme.
Il le faut nécessairement.
Voilà, et pour qu'elle soit et puis elle a parlé des campagnes de sensibilisation surtout dans le monde rural.
Oui, ça aussi c'est très capital. Malheureusement, il y a toutes ces disparités que nous sommes en train de vivre aujourd'hui avec la présence des ONG dans les villes. Il y a plus des cadres de sensibilisation qui dans le monde rural et c'est qu'elle a évoqué si l'État pouvait prendre les choses en main. De toute façon, le programme doit desservir tout le pays. Ça ne doit pas être sélectif parce qu'en milieu rural, on voit justement il y a ces problèmes d'accès à l'information. Donc, il faut plus intensifier, il faut plus mettre en place ces cadres de programmes qui permettent à toutes les femmes, en commençant par la petite fille, comme elle a évoqué.
En famille, déjà au niveau de la famille, oui.
Et c'est tout là le problème, c'est au niveau de la famille parce que l'éducation, la socialisation, c'est le processus là qui différencie même les rôles et les responsabilités dès la famille. Donc, la femme ne peut pas devenir autonome tant que les rôles qui lui sont attribués dans la famille ne lui donnent pas cette capacité-là, même morale, de pouvoir comprendre, de pouvoir croire en ses capacités et à les exercer. Et les obstacles vont toujours s'en suivre parce que partout où on rencontrera l'homme, l'homme pensera toujours qu'il a les droits, il doit toujours agir en avant et lui, il a le pouvoir sur la femme.
Boto Marcel nous appelle de Kananga et Ambroise de Mouenéditou. Marcel Boto, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à l'invité.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire concernant l'autonomisation de la femme?
Oui, cette autonomisation, quand on ne sent pas, on ne sent pas surtout. Les femmes, dites-là, mais vous trouvez une structure, par exemple, de la société civile qui s'intéresse, ne fût-ce que pour les genres. Mais sur 10 membres, vous retrouvez là-bas, oui, hommes, il n'y a que 2 femmes, parce que ça veut dire quoi? Cette fille d'infériorité. Là, on ne comprend pas. Et surtout quand on leur donne aussi des responsabilités. Vous voyez, bon, nous, par exemple, en passant, le débat est surtout pédagogique. En passant, je remercie le nouveau gouverneur parce que nous avons vu qu'il a nommé 3 femmes à la tête du ministère. Nous apprécions ça. Qu'il puisse d'abord avoir cette autonomisation. C'est-à-dire quoi? Prendre ses responsabilités. Parce que vous allez voir, ils n'ont pas la capacité de travailler. Vous pouvez dire, oh non, il n'y a pas. Prendre la tâche. Alors, pour exercer le pouvoir, là, vous voyez. Il prend ses frères garçons qui ne savent même pas quoi évoluer. C'est pourquoi je voulais poser à l'invité. Il peut descendre à des provinces. Quand ils vont descendre à des provinces, qu'ils lui racontent un peu de structure des dames. Enfin, de former, surtout comme Evelyne a parlé de renforcement des capacités, enfin qu'elles changent. Parce que ça, on ne sent pas. Vous voyez, les 8 mois, c'est après 2 jours. Mais on sent pas que non, les femmes, il n'y a pas, vous ne voyez même pas sur la ville, pas des ateliers concernant ça, on ne sent rien. Et surtout qu'on puisse travailler réellement pour ça, parce que cette automation est toujours à l'œuvre, mais en pratique, c'est rien.
D'accord. Merci Marcel. Ambroise, vous êtes à Mouenéditou, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste.
On vous écoute, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'autonomisation de la femme?
Oui, oui, si j'ai bien suivi la dame qui a intervenu en première position, l'autonomisation de la femme, c'est d'abord le fait qu'on soit autonome. Donc la femme a être autonome, c'est-à-dire avoir, c'est s'autosuffire elle-même, ne pas avoir des relations, ou soit ne pas dépendre d'une manière...
Ne pas dépendre des autres.
Ne pas avoir... cette dépendance avec les autres. Mais il y a des problèmes là qui se posent, messieurs les journalistes.
Lesquels?
Vous savez, quand Dieu avait créé l'homme au départ, il avait vu que l'homme ne peut pas évoluer seul, jusqu'à tel point qu'il a vu qu'il faut que je crée l'être semblable à l'homme, de façon que l'homme soit heureux. Mais nous allons, ce que nous venons de constater aujourd'hui, il y a les abus, hein, il y a les abus que les femmes sont en train de parler, non, il faut que l'émancipation de la femme, d'ailleurs, ici qu'ils vont fêter le 8 mars. Bon, il faut que la femme soit autonome, il faut que la femme soit libre. Mais vous savez, nous sommes dans une société. Quand Dieu avait créé l'homme, il a dit que l'homme n'était pas libre seul. Il faut qu'il soit à côté de la femme.
Ambroise, c'est-à-dire vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas.
Il y a une relation d'interdépendance. Il y a une corrélation. Hein. Il y a une linéarité. Dieu ne peut pas vivre sans l'autre. La femme ne peut pas vivre sans l'homme. L'homme ne peut pas vivre sans la femme.
Ambroise. Oui, Ambroise, vous ne voulez pas que la femme, par exemple, accède à l'éducation ou au travail ou exerce des activités qui vont lui rapporter un peu plus d'argent pour ne plus dépendre des autres?
Non, monsieur le journaliste, moi je n'ai pas dit ça. La femme doit accéder à l'éducation. La femme doit accéder à n'importe quoi, de façon qu'elle soit aussi considérée comme être comme une personne très importante que l'homme. Vous savez, j'ai été en Zambie, il y a un slogan là, on parle de gender balance, hein, c'est-à-dire l'équilibre des genres, c'est-à-dire l'homme, la femme est égale à l'homme, c'est-à-dire il y a un équilibre. Mais ici, je commence à constater que non, quand on parle de gender balance, c'est-à-dire que la femme cherche à avoir une suprématie, hein, cherche à avoir un pouvoir, ou soit qu'elle cherche à avoir un pouvoir pour dominer l'homme. Mais ce n'est pas comme ça, nous sommes dans la société. La femme dépend de l'homme, l'homme dépend de la femme. L'éducation, quoi et autre là, c'est bien. C'est pour arriver à améliorer les quotients intellectuels ou les niveaux de vie de la femme. Mais si elle dit que non, l'autonomisation, c'est-à-dire qu'on peut lui donner tout, mais c'est-à-dire qu'un jour elle ne peut pas avoir besoin de l'homme.
Bien, l'invité va répondre tout à l'heure à votre préoccupation. French, vous êtes à Mbujimayi, bonjour.
Bonjour, aujourd'hui, bonjour à tous les auditeurs de la radio et aussi à l'invité.
Bien, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'autonomisation de la femme? French, vous êtes là? Il n'est plus là. Madame Pascaline.
Oui, c'est très passionnant comme débat, comme réflexion. Et effectivement, ça nous renseigne un peu de l'état d'âme des hommes et des femmes quand on évoque des questions de genre, de parité et, oui, et de l'autonomisation. Mais ici, nous devons comprendre les choses. Moi, j'aimerais juste dire un message que l'autonomisation n'a rien à voir avec la révolte ou le fait que les femmes se rebellent et pensent qu'elles ont maintenant la suprématie, comme on l'a cité. Ici, l'autonomisation...
Non plus dépendre des hommes,
pas
et tout
du
ça.
Tout, pas du tout. Et moi, je
ça
pense
n'a rien
que
à voir.
Ça permet même. Et quand on dit que la femme ne va pas dépendre, ce n'est pas à dire que pour une femme mariée, elle va maintenant se passer de son mari. Non, non, l'objectif ici, c'est pour améliorer même les conditions de vie, par exemple dans les ménages, parce qu'au moins on sait que la femme est capable de contribuer aussi de façon significative. Donc ce n'est pas juste
le travail,
la femme
elle peut ramener quelque chose,
pour
on faire met
des
ensemble.
Enfants. Oui. Et ici, nous sommes en train de voir l'épanouissement des familles, l'épanouissement des communautés, parce qu'à la fin de compte, c'est ce qui vaut. Parce que quand on éduque l'homme et la femme, c'est pour l'amélioration des conditions de vie de la communauté, de la société, de nos familles. Ça n'a rien à voir avec rébeller un genre et au détriment d'un autre. Je voulais aussi évoquer ici que l'autonomisation ici, ce n'est pas seulement le fait que les femmes vont dans les séminaires sur le genre, sur leurs droits, mais c'est tout un processus, comme j'ai dit, comment la femme peut disposer même de son corps. Comment est-ce que la femme accède aux soins de santé pour décider de combien d'enfants elle doit avoir, à quel moment elle doit les avoir,
oui.
Comment et tout ça dans un cadre des partenariats avec l'homme, parce que la femme ne vivra jamais dans un monde à part, elle sera toujours là avec l'homme. L'effort que je demande aux hommes de comprendre, c'est de quitter cette mentalité d'avant qui permettait à l'homme de croire qu'il y avait une différence dans la pensée et dans la manière de faire entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, nous sommes censés construire notre monde ensemble et c'est là, tenant compte des capacités des uns et des autres, des besoins aussi des uns des autres, parce que les femmes ont leurs besoins spécifiques. Quand j'évoque les questions de santé ici, ce n'est pas normal, par exemple, qu'une femme ne sache pas qu'est-ce qui veut dire la santé de la reproduction, elle ne maîtrise pas sa maternité, ne sache pas à quel moment elle va concevoir un enfant, quand elle a des problèmes de santé, qu'est-ce qu'elle doit faire. Donc c'est tout ça, C'est pour cela même qu'on est en train de marteler, c'est des questions d'éducation. Parce qu'une femme qui est éduquée, c'est important pour elle-même et surtout pour sa communauté. Et nous le voyons dans la communauté, une femme instruite éduque ses enfants différemment qu'une femme qui n'est pas instruite. Et c'est au profit de qui, au finish? C'est au profit de la famille. Et les hommes en tirent aussi profit parce que les enfants n'appartiennent pas qu'à la femme.
Et mais il y a un auditeur qui a appelé pour dire qu'il est à Kananga, mais il ne voit aucun mouvement. Et d'après lui, les femmes ne font aucun effort pour devenir autonomes.
C'est pour cela que c'est important. On ne doit pas toujours avoir les yeux braqués sur les ONG. Les gouvernements devraient récupérer maintenant cette situation. C'est au ministère des genres, au niveau provincial et au niveau national, d'avoir le programme, d'avoir justement les guides justement de l'organisation même non seulement.
Par exemple, celles qui n'ont pas pu aller à l'école, qu'est-ce qu'on peut faire pour les rendre autonomes, les envoyer dans des centres de formation?
Oui, c'est ce que je dis à court terme. Il faut justement encourager ces petits programmes d'autonomisation, des microcrédits, mais à côté de ça, surtout la sensibilisation. Parce que si la femme elle-même ne se conçoit pas d'abord comme un être capable, ça sera difficile qu'elle soit autonome. Parce qu'il y a des femmes, on a vu les jeunes filles qui ont eu à avoir des enfants avant l'âge, elles sont encore adolescentes. Mmh. Même si vous leur donnez des formations, souvent elles retombaient encore dans la même erreur. Donc il fallait d'abord faire un travail d'éveil de conscience, qu'elles comprennent que c'est pas ça la vie. La femme, ce n'est pas seulement pour faire des enfants, par exemple. Il y a une vie qu'elle doit suivre. Elle ne doit pas nécessairement penser que l'homme est plus intelligent. Ça veut dire tout ce que l'homme lui dit, c'est ce qu'il faut faire. Donc elle doit disposer vraiment de ses capacités intellectuelles, physique, morale, mentale, etc.
Kabongo et Mary est à Kananga et David nous appelle de Mbujimayi. Bonjour Kabongo.
Oui, bonjour Monsieur Jody, bonjour Madame l'invité.
On vous écoute.
Oui, merci beaucoup Monsieur Jody. Moi je comprends qu'on est autonome lorsqu'on vit dans les limites de nos moyens. Lorsqu'on ne dépense pas dépassant nos moyens, nous gagnons 80 000 francs mais nous cherchons à avoir des choses qui dépassent notre revenu. Qu'est-ce qui peut être fait dans la famille? Quand la femme gagne, quand l'homme gagne aussi, il faut tenir des conseils familiales pour savoir nous gagnons combien par mois, nous payons combien pour les loyers, nous épargnons combien, nous payons combien pour les enfants à l'école. Ce qu'il y a vraiment, ce qui doit se passer dans des familles. Mais aujourd'hui, nous voyons dans notre pays, il n'y a pas cette culture-là de tenir des conseils familiales pour pouvoir trouver le consensus concernant les dépenses dans la famille. Nous voyons aujourd'hui la femme qui vend des feuilles de manioc au marché, c'est lui-même là qui fait les études pour les enfants, alors que d'autres papas ne font rien. Ils laissent toute la charge sur les épaules de nos mamans. Ce n'est pas vraiment encourageant. Il faut qu'il y ait cette culture des conseils familiales pour savoir qu'est-ce qui doit être fait dans la famille. Je voudrais vraiment poser une question à la maman qui est dans les studios pour savoir quand est-ce que une femme peut supporter sa famille. Parce qu'il y a d'autres hommes qui sont devenus ignorants aujourd'hui. Ils ont oublié leurs responsabilités en laissant toute une charge sur les épaules de nos mamans, ce qui n'est pas vraiment bien.
Bien, merci Kabongo. David, vous êtes à Mbujimayi, bonjour.
Bonjour Jody, Daniel, bonjour à tous et à toutes. Hein.
Bonjour.
On vous écoute.
Voilà, moi, d'après moi, l'autonomisation, en fait, c'est le fait de dépendre de soi-même, donc de ne pas dépendre d'une autre personne. Voilà. Maintenant, trois problèmes se posent aujourd'hui en République démocratique du Congo. Il y a les problèmes de l'alphabétisation, il y a les problèmes de la parité, il y a encore les problèmes de la culture. Voilà, maintenant, on parle maintenant du point de vue en alphabétisation. Aujourd'hui, on va les femmes d'abord n'ont pas confiance en soi et non, elles ne sont pas conscientes entre elles-mêmes. Voilà, elle se croit quand elle est femme, elle n'a pas l'accès aux études, elle n'a pas l'accès au travail. Bon, elle ne se sent pas capable de faire n'importe quoi, donc elle est inapte. Voilà. Maintenant, ce qui concerne j'ai parlé de l'alphabétisation et de la parité, mais dans la parité, c'est pas comme ça. Aujourd'hui, on va, même dans d'autres pays étrangers, on va les travail comme les hommes qui font l'administration. On a vu Ellen Johnson Sirleaf. Elle est la femme, elle était la présidente de la République. Voilà. Parce que c'est ça maintenant, c'est George Weah. Voilà, regardez maintenant, c'est la femme, elle s'est sentie capable. Mais ça ne se passe pas à RDC, c'est pas le cas. Et en fait, la culture. Aujourd'hui, on voit quoi? Parce que les femmes sont soumises d'abord aux cultures. Elles se croient que, donc, quand on est femme, on est seulement limité aux travaux ménagers, à l'éducation des enfants à la maison. Et ce qui ne se fait pas. Jadis, ça se faisait. Les femmes s'occupaient de l'agriculture, des travaux ménagers. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Les femmes ont l'accès aux études, ont l'accès aux travaux. Pas seulement les travaux ménagers, il faut faire ça, mais après, ils vont aux études, ils étudient, ils travaillent. En fait, moi, voilà, je voulais poser la question à la dame.
Quelle est la question rapidement?
Quelles sont les caractéristiques de l'autonomie et qu'est-ce que fait l'analphabétisation en RDC? Quelles sont les causes? Merci beaucoup.
Bien. Henri, vous êtes à Banonouville, bonjour.
Oui, allô, bonjour.
Voilà, soyez bref, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'autonomisation de la femme?
Bon, moi, je veux dire à propos de l'autonomisation de la femme, il y a des femmes qui ne partent jamais à l'école, elles sont là seulement pour chercher à manger, faire de l'agriculture. Est-ce que...
Alors, Henri, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre les femmes autonomes?
Je veux dire, il y a des femmes, elles sont là seulement pour aller au, quoi. Je peux dire qu'ils sont censés seulement d'aller dans du champ pour chercher à quoi les enfants doivent se manger le soir. Alors, est-ce que ce sont des femmes là, est-ce que les femmes là sont des gens autonomes ou bien comment? Je veux demander aussi à notre invité. Aujourd'hui, dans notre ville de Bandundu, il y a des femmes où sont là seulement dans des boîtes de barbe, et sont là pour se prostituer. Est-ce que c'est ça l'autonomie de la femme ou bien elles cherchent à avoir des maladies dans les jours à venir?
Bien, Joseph Pungu, vous êtes à Kindu, bonjour. Bonjour Joseph.
Madame l'invité, à tous les auditeurs de la radio de la paix.
Moi, j'ai
une unique préoccupation à demander à notre invité, la catégorie d'une femme et d'une femme autonome. Est-ce que une femme autonome peut être seulement célibataire ou soit une femme mariée? Parce que l'autonomisation aussi n'est pas aussi d'une femme à une autre. Lorsque vous verrez qu'une femme est devenue autonome, mariée, est-ce que ça ne peut pas nuire la responsabilité d'un homme dans la maison? Si une femme est arrivée maintenant à se dépendre de lui-même, ou à manger, à vraiment payer les frais scolaires pour les enfants, l'éducation... Ça dépend toujours de la femme. Est-ce que cela n'est pas aussi la responsabilité d'un homme à la maison?
D'accord, merci.
Parce que j'aimerais demander à notre invité.
Merci, Joseph. Voilà, plusieurs préoccupations, Madame Pascaline. Vous avez la parole.
Oui, merci, Joseph. En fait, l'autonomisation, ça s'applique pas encore une fois seulement dans le mariage. Ce qui est même conseillé, c'est que avant que même les jeunes disposent de leur vie et qu'ils sachent ce qu'ils doivent faire. Parce que comme vous remarquez, les jeunes garçons, quand ils vont solliciter les jeunes filles à mariage, on suppose déjà qu'ils sont autonomes parce qu'ils pensent qu'ils sont capables de prendre des décisions en allant même vers la jeune fille. Ils sont capables de mobiliser les ressources pour vivre. Donc, c'est ce qu'on veut, la même chose pour les jeunes, la jeune fille. Donc, même avant d'aller en mariage, qu'elle soit capable déjà de décider que, OK, à tel âge, je pense que je suis capable d'aller dans le mariage et voilà ce que je veux faire dans le mariage, ou même dans le choix de mon partenaire. C'est ça l'autonomisation dont on parle. Il est autonome parce qu'il a la capacité de disposer de sa vie, de prendre des décisions qui lui soient importantes à elle, à sa vie et à son épanouissement. C'est donc pas seulement dans le mariage. Moi, je pense que c'est un élément important. Mmh. On doit vraiment insister là-dessus. Ce n'est pas bien que l'autonomisation vienne après, parce qu'effectivement, il y a déjà un mode de vie qui est mis en place et parfois les hommes supportent ça mal. C'est bien que ça vienne dans un cadre consensuel avec l'homme et la femme et que l'homme prenne conscience que la femme doit s'autonomiser, doit s'épanouir et il doit aussi y participer. Donc, il y a aussi une question de gestion qui revient.
Mmh.
Il y a
notre frère, certains disent que l'autonomisation, ça passe d'abord par l'apprentissage, l'éducation, le travail.
Absolument.
Aussi et le leadership de la femme.
Absolument. Et c'est très capital. Et ce n'est pas seulement au niveau de la femme, c'est comme ça qu'on évoque aussi l'environnement. Même la façon dont la, les politiques doivent réagir sur les questions des participations de la femme. Ça a un trait aussi à l'autonomisation. Madame Evelyne l'a bien dit, il faut qu'il y ait des lois qui ne discriminent pas les femmes, mais qui leur donnent la chance et les pouvoirs de pouvoir accéder au cercle de prise de décision au même titre que les hommes et qui ne les exclut pas. Mmh. Je voulais revenir sur la question de notre frère de bande Dondou qui a parlé de femmes qui passent leur temps dans les champs. Moi, je pense pas que c'est une mauvaise chose. Au contraire, ça aide aussi parce que ça contribue à la survie du ménage. Ici, on ne prend pas en compte le fait que les temps que les femmes passent dans le ménage, effectivement, peut-être que ça ne renforce pas leur autonomisation, mais c'est pour le bien de la famille. Et il faut jamais minimiser le temps et l'énergie que les femmes dépensent dans le ménage parce que c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie qu'elles dépensent, mais parfois ça ne leur profite pas. Bien sûr, c'est au profit de toute la famille, mais ce n'est pas quelque chose à minimiser parce que dans notre culture, on a l'habitude de dire, bon, c'est une femme ménagère, elle ne fait rien, mais c'est une femme ménagère.
Et pourtant, le ménage, c'est un travail.
Beaucoup, et parfois, elle a sacrifié son travail pour aider toute la famille à s'épanouir. Mmh. Donc ça aussi c'est une question qui est une épine dorsale aujourd'hui quand on parle de l'autonomisation. On ne sait pas capitaliser tout le temps que les femmes passent dans la maison pour s'occuper des questions familiales. Si l'homme part pour travailler, si peut-être qu'il a un équilibre à son travail, c'est peut-être parce qu'il y a une femme qui reste à la maison tout le temps à s'occuper de ses besoins, comment il va manger, comment il va sortir et surtout s'occuper aussi des questions des enfants.
Alors, il y a quelqu'un de Bandundu qui pose la question de savoir, les femmes prostituées, elles passent tout le temps les temps dans les boîtes, dans les hôtels, est-ce que c'est une forme d'autonomisation?
Bon, peut-être pour elle, elle considère que c'est une façon d'aller chercher de l'argent. Là, on est aussi dans les domaines moraux parce que ça ne concerne que ces jeunes femmes. Ces travaux présentent peut-être des risques. C'est sur ça que moi, je peux intervenir. Mais je ne peux pas dire que c'est vraiment un modèle d'autonomisation parce que ça, on a dit juste que c'est un aspect. Quand on cherche à avoir l'argent, avoir un pouvoir financier, justement, ça fait partie aussi de l'autonomisation.
Vedas, on nous appelle des Kananga. Bonjour. Vedas, bonjour. Voilà, on va le retrouver tout à l'heure. Il y a Emery qui a dit aujourd'hui, il a l'impression que les femmes prennent en charge les familles. Même à Kinshasa, il y a des hommes fonctionnaires de l'État qui ne travaillent plus, qui n'ont plus de revenus. Ben, maintenant, ce sont les mamans qui prennent les devants. Elles sortent chaque matin pour aller travailler. Et c'est elles qui assurent les repas ou qui prennent en charge toute la famille.
Oui, oui. On peut être...
Est-ce qu'on va parler à ce moment-là de l'autonomisation ou bien c'est une charge pour la femme?
Non, on va dire bien sûr que ces femmes ont quand même développé des astuces, des capacités pour se rendre autonomes parce qu'elles sortent, elles cherchent des moyens pour venir subvenir aux besoins de leur famille. Mais malheureusement, en tant que femmes, elles ont aussi beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes de santé, comme on l'a tantôt dit, souvent, et ne participent pas aux décisions ni de la famille, mais dans la communauté parce qu'elles sont vraiment dans un secteur informel. Et pourtant, ici, quand on parle de l'autonomisation, on n'est pas seulement en train de voir les avantages pour les femmes ou pour la femme elle-même, mais nous sommes en train de voir la communauté tout entière. Donc, il faut que les femmes, en jouissant de leurs droits, en ayant ce pouvoir-là, qu'elles puissent influencer même les décisions, qu'elles puissent influencer les processus d'épanouissement d'elles-mêmes, de la famille, de toute la communauté, et y participer.
Mmh. Ouais. Ben, revenons à l'autonomisation économique de la femme. Certains disent qu'il faut, pour que cela devienne une réalité, il faudrait aussi faciliter l'accès au crédit. Aux femmes, elles ont des projets, elles veulent peut-être se lancer dans l'entrepreneuriat, mais elles ne peuvent pas, n'ont pas assez de moyens pour développer leurs activités.
Oui, oui, on l'a vu dans d'autres pays, on a créé carrément des banques pour financer les projets des femmes. Je ne sais pas s'il y en a eu un exemple ici en RDC, mais c'est aussi un moyen de le faire. Quand on veut aider, on veut répondre à un problème spécifique en pensant que les femmes et n'arrivent pas à accéder au crédit parce qu'il y a trop de conditions. Et on n'est pas en train de penser à leurs besoins spécifiques. Si ça vaut la peine, il faut le faire. Mais on l'encourage beaucoup aujourd'hui dans notre contexte parce qu'on sait très bien qu'en aidant les femmes aujourd'hui, on est en train d'aider toute la communauté. Parce que les femmes, elles n'est juste pas d'elles-mêmes, contrairement à ce que j'ai entendu, que les femmes se livrent maintenant au libertinage. Mais on sait aujourd'hui par majorité que les femmes, les moyens qu'elles gagnent, que ce soit dans les activités formelles ou informelles, ça profite plus à la famille. Parce que vous avez tantôt évoqué la question du chômage. il y a pas d'emploi pour les hommes et donc c'est les femmes qui jouent un peu les rôles secondaires et parfois primordiales.
Est-ce que on peut dire que c'est plutôt une charge? Est-ce que ça les aide à s'épanouir? Parce qu'elles pouvaient encore faire autre chose pour s'épanouir, mais maintenant elles ont toute la charge de la famille sur les épaules.
Oui, bien sûr que c'est une charge. Nous encourageons la complémentarité. Donc pour les hommes qui pensent que les femmes s'en sortent bien déjà parce qu'elles vendent et font le petit commerce et ça survient déjà aux besoins de famille, ça c'est de l'irresponsabilité. Donc on encouragerait les hommes, même s'ils n'ont pas un emploi salarié, mais ils peuvent aussi se débrouiller et aider, même les jeunes aussi, tant qu'ils sont encore sous le toit parental, ils peuvent toujours contribuer et seconder un peu la maman, mais aussi à la maman elle-même quand elle pense qu'elle peut déjà faire quelque chose, qu'elle n'oublie pas l'aspect qu'elle doit s'autonomiser elle-même sur d'autres plans.
Alors au sein de votre structure, combien des dames sont déjà devenues autonomes grâce aux formations, à l'encadrement que vous leur avez donné?
Comme je l'ai dit au début, donc on travaille avec des catégories. Il y en a qui viennent parce qu'ils ont déjà étudié, ils ont un projet, ils veulent un accompagnement. Pour là, c'est pas très compliqué parce qu'au moins ils ont l'idée de ce qu'ils veulent faire. Mais pour les autres, parce qu'on estime qu'ils sont vraiment à côté du processus d'autonomisation, c'est là qu'on commence d'abord en faisant des sensibilisations et puis après voir comment les accompagner dans leur projet. Et on peut compter à 300 ou 350.
Qui ont des activités et qui marchent très bien.
À Kinshasa, à Bukavu et au Maniema où on intervient.
Bien, Madame Pascaline Zamunda, coordonnatrice du cadre des récupérations et d'encadrement pour l'épanouissement intégral des jeunes, CREIJ, et consultante en genre, nous vous disons merci.
Je vous remercie
aussi. À la prochaine.
Pour l'opportunité. Merci.